La revue de presse internationale, Camille Magnard, bonjour. Ce matin, le New York Times tente de regarder en face cette guerre qui se déroule depuis un mois dans le nord de l'Éthiopie.
Oui, pas facile de documenter un conflit que les autorités éthiopiennes voudraient garder loin des regards internationaux. On va revenir sur cette bataille de l'information autour de la guerre au Tigré. Alors il faut pouvoir accéder, alors faute de pouvoir accéder librement à cette région du nord du pays où on le sait, l'armée nationale combat les forces autonomistes tigréennes. Eh bien, le reporter du New York Times, Abdi Yatif Dahir, a pris le parti d'écouter patiemment ceux qui l'ont fui cette guerre, cette région déchirée par les combats, les milliers de réfugiés tigréens qui s'entassent dans les camps improvisés à la frontière avec le Soudan, livrent leur récit, forcément personnel, forcément lacunaire, mais c'est un matériau journalistique vivant, traumatique et surtout effarant. Où l'on découvre, dans le New York Times donc, les exactions commises non seulement par les soldats envoyés par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed au Tigré, mais surtout par les milices qui leur sont alliées et qui font le sale travail à leur place. Des massacres ethniques contre la population tigréenne, voilà ce dont il est question et dont Addis Abeba s'était toujours défendu. Les milices en question, explique le reportage d'Abdi Yatif Dahir, sont surnommées Fano. Elles sont composées essentiellement de jeunes de l'ethnie Amara, la voisine du sud des Tigréens. Dans les camps de réfugiés, tous les récits racontent leurs méfaits, les villages attaqués, saccagés, les habitants battus, mutilés ou encore extorqués sur la route de l'exil. La guerre qui se poursuit au Tigré, quoi qu'en dise le pouvoir éthiopien, est, tel que la résume le New York Times, un conflit dévastateur, devenu une source effroyable de pillages, d'antagonismes ethniques et de meurtres. Et les Nations Unies ne disent pas autre chose avec ce cri d'alarme relevé sur le site d'Al Jazeera. L'Éthiopie est prise dans une spirale incontrôlable de souffrances effroyables pour sa population civile.
Et quand l'ONU demande à accéder à la région en guerre pour y mener une enquête indépendante, l'Éthiopie lui répond qu'elle n'a pas besoin de babysitter pour la surveiller, Camille.
Oui, c'est une formule prononcée très officiellement ces derniers jours à Addis Abeba, où les autorités en guerre continuent d'affirmer que l'offensive contre les terroristes, selon eux, du Tigré, est terminée et forcément victorieuse. L'agence Reuters détaille les efforts menés par le gouvernement d'Abiy Ahmed pour faire oublier la guerre, en communiquant sur de grands projets économiques, l'inauguration par exemple ce mercredi d'une autoroute flambant neuve à la frontière avec le Kenya. Et pendant ce temps, le noir médiatique est toujours maintenu sur le Tigré. Réseau internet et mobile coupé, très peu de moyens donc pour les observateurs étrangers de se rendre sur place. L'Éthiopie d'Abiy Ahmed, écrivent Samuel Guebré et Claire Wilmot dans le Mail and Guardian sud-africain, nous donne à voir depuis un mois ce qui se fait de plus moderne en termes de propagande gouvernementale, avec non seulement une limitation maximale des sources d'informations indépendantes, mais aussi un rouleau compresseur médiatique mis en place par les autorités elles-mêmes pour s'arroger le droit de fact-checker ce qui se dit sur la guerre en cours. C'est l'État, acteur principal du conflit, qui prétend dire ce qui est une information vérifiée et ce qui est une fake news. Les deux journalistes du Mail and Guardian le rappellent pourtant, c'est la mission de la presse de vérifier ce que dit le gouvernement, et quand c'est l'inverse qui se passe, eh bien, il y a de quoi s'interroger sur l'exemplaire démocratie éthiopienne.
Et puis aux États-Unis, les médias s'interrogent sur le sens des priorités de Donald Trump à 40 jours de la fin de son mandat présidentiel.
Et des médias choqués pour beaucoup par ce coup d'accélérateur qui a été mis par l'administration Trump aux exécutions de condamnés à mort dans les prisons fédérales. Pas moins de 5 viennent d'être programmés d'ici au 20 janvier, constate la chaîne NBC, qui précise en passant que 4 sur 5 concernent des hommes noirs et la 5e, une femme, la première condamnée à mort qui sera exécutée aux États-Unis depuis 70 ans. Un tel empressement a quelque chose de foncièrement troublant, alors que Donald Trump n'est plus que le « lame duck president », le président canard boiteux, comme le veut la formule consacrée en ces temps de transition présidentielle. Si les 5 peines capitales sont appliquées, comme prévu, d'ici à la fin de son mandat, alors Trump restera comme le président qui a fait le plus exécuté de condamnés à mort depuis au moins un siècle. Dans un éditorial cinglant, le Los Angeles Times voit dans cette décision d'accélérer le calendrier des exécutions la preuve, s'il en était besoin, que la peine de mort est arbitraire, politique et donc indéfendable. C'est d'ailleurs, et c'est d'autant plus troublant, la position que défend également, qu'a défendu pendant la campagne Joe Biden. Il a clairement dit qu'il veut éliminer la peine de mort au niveau fédéral et faire pression sur les États pour qu'ils suivent le même chemin. Le site spécialisé dans l'information judiciaire, The Appeal, note que depuis les dernières élections, de nouveaux procureurs prennent leurs fonctions à travers les États-Unis et beaucoup d'entre eux affirment qu'ils sont contre les exécutions. Voir donc Donald Trump profiter de ces dernières semaines au pouvoir pour s'opposer à cette tendance à quelque chose de terriblement cynique, accuse enfin le Los Angeles Times.